Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise et candidat aux législatives dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Vous l'aurez compris, on va parler des premiers pas du gouvernement, de la gauche, ou plutôt des gauches, des législatives et bien entendu du territoire. Mais auparavant, Jean-Luc Mélenchon, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Aïe.
À séquence électorale exceptionnelle, invité d'exception. Permettez notre emphase, Jean-Luc Mélenchon, mais depuis 10 ans, cette émission tente de renouveler tous les mois un miracle. Parler politique avec les politiques de Marseille et sa région. Et ainsi que vous l'avez remarqué en arrivant sur le Vieux-Port, ces messieurs et ces quelques dames s'accrochent à leur mandat comme des moules à leur rocher. Alors parfois, la lassitude nous gagne. Le premier invité de la Grande Tchatch, il y a 10 ans, était un certain Patrick Menucci. Il s'en est donc fallu de peu qu'on le convie ici une 4e fois. On vous salue Patrick, partie remise. Séquence électorale exceptionnelle avec le PSLR éliminé du second tour de la présidentielle. Avec un jeune sourdoué, choisi par défaut pour éviter le pire, l'extrême droite. Mais aussi parce qu'il vous a manqué moins de 2% et quelques 600 000 voix pour être finaliste. Votre légendaire modestie dut se-t-elle en souffrir, insistant sur le thème. Vous êtes exceptionnel. C'est la première fois qu'un candidat tout juste plébiscité par 7 millions d'électeurs se parachute sur Marseille, venant y perturber tous les plans pour les prochaines législatives. Même ceux que vous insupportez, et ils sont nombreux, le reconnaissent. Hein. Vous êtes exceptionnel, dites-il, vous êtes le meilleur tribun, l'avenir en commun, le programme des insoumis, le plus élaboré, le plus fourni en chiffres, etc. Et lorsqu'ils vous combattent, vos adversaires vous réservent des qualificatifs tout aussi exceptionnels. Vous êtes le plus irresponsable face au Front National, le plus populiste, le plus diviseur de la gauche, le plus démagogue, le plus autocrate. J'en rajoute encore. Un invité d'exception donc, portrait exceptionnel, il sera particulièrement court. D'abord parce que votre CV est bien plus long que celui du nouveau président. Pour prendre un exemple, Macron n'était pas encore né lorsqu'en 83, vous obtenez votre premier mandat de conseiller municipal à Massy dans l'Essonne. Nous ferons court parce que votre parcours est connu, votre enfance au Maroc, on en parlait, vos premiers combats avec les trotskistes, vos années Mitterrand, auxquelles vous avez toujours conservé votre estime malgré les désaccords, votre expérience de ministre, le Sénat, la rupture avec vos camarades socialistes, la fondation du Parti de gauche, votre mandat européen, la création de la France insoumise. Nous ferons court surtout car les Marseillais qui vous ont placé en tête au premier tour de la présidentielle et tous les autres, ceux qui s'interrogent sur le sens de votre candidature dans leur ville, ont envie de vous entendre. Enfin, soulignons pour finir que votre premier grand entretien à Marseille, c'est donc cette grande tchatch du Ravi sur Grenouille, une radio et un mensuel vraiment exceptionnel.
C'est un choix.
Jean-Luc Mélenchon, une réaction à ce portrait à la sauce Ravi ?
Il est assez favorable parce qu'il aurait pu dire 100 fois pire de moi. Hein. J'ai déjà lu toutes sortes d'horreurs, je m'attendais à pire. Non, il est juste la dose narquois qui fait que je ne sais pas quoi répliquer. Mais c'est un choix pour moi de commencer par vous sur le plan des médias. C'est un choix, c'est pas un hasard. Je pense que le système médiatique est la deuxième peau du système global dans lequel nous vivons. C'est un adversaire. En aucun cas un miroir déformant, c'est une arène, donc pas simplement, il ne déforme pas la réalité qu'il montre, il la transforme, il la reformule pour la faire avaler par ceux qui s'y abandonnent et formater leur esprit. Par conséquent, le système médiatique fait partie de nos adversaires et de nos ennemis, il faut le détruire.
Le quatrième pouvoir est un ennemi pour vous, Jean-Luc Mélenchon ?
Oui, bien sûr, c'est même le pire ennemi de la démocratie aujourd'hui, parce que c'est le système permanent des mises en scène, du bourrage de crâne, c'est tout ça qui formate un esprit public. Vous savez, le sociologue Ernesto Laclau en Amérique latine disait ici il n'y a pas d'opposition de droite au pouvoir de gauche. Hein. Il n'y a pas d'opposition de droite, ça n'existe pas. Ils sont pas capables de mener des actions de masse. Il n'y a qu'un seul parti contre nous, c'est le parti médiatique qui lui tous les jours est là pour montrer du doigt, dénoncer, insulter, des fois appeler au meurtre. Je parle de l'Amérique latine, pas en France, c'est plus insidieux, mais c'est de même nature. Donc le détruire, je m'empresse de le dire parce que sinon on va reprendre ma phrase en disant Mélenchon veut détruire les journalistes, et je voudrais noter que je n'ai pas parlé des journalistes, c'est le contraire. Je pense que si on sécurisait socialement la situation des journalistes, ils pourraient, dans leurs diverses rédactions, être beaucoup plus libres de leurs paroles. C'est la peur qui mène les rédactions et la trique des chefferies qui fait que tout le monde se met en ordre. Alors, 9 milliardaires possèdent 90% des médias de ce pays, sauf un, leur avis et quelques autres. Et voilà, donc je vais dans les brèches et j'essaye d'aider ceux qui sont la brèche du système. Je ne me mêle pas de savoir ce que vous racontez, ni même si vous allez bien me traiter. Il suffit que vous soyez la brèche.
Juste avant de démarrer cette émission avec la première question concernant les premiers pas du gouvernement, une question peut-être un peu plus personnelle. Les présidentielles ont eu lieu il y a très peu de temps. Vous sortez du rôle d'un potentiel président de la République. Comment on fait pour se retrouver dans celui d'un député, tout simplement? Est-ce qu'il y a... Comment ça se passe?
Oui, il y a des... Bon, comme dans la vie, chaque fois qu'on change de rôle, parce que c'est pas le même, hein, quand vous faites une campagne présidentielle comme celle que j'ai conduite, à un moment donné, bon, ben, vous êtes dans la situation de celui qui pourrait être le président de la République. Notamment, à un moment donné, on est monté, les instituts de sondage nous disent, on sait plus, vous êtes dans un mouchoir de poche. Donc s'opère en vous une mutation qui vous fait regarder les choses différemment. Ça change pas le programme, mais la manière avec laquelle vous abordez votre tâche, et vous sentez que le regard des autres attend quelque chose de vous en particulier qui doit correspondre à l'idée qu'ils se font de la fonction. Et on n'a pas à mépriser ce regard. Hein. Quand j'étais jeune homme, au début, la première fois que j'ai été élu conseiller général, j'avais un costume en blue jean. Et les copains m'ont dit, ben ça, non, t'arrêtes, tu mets un costume comme tout le monde et une cravate, c'était ça à l'époque, et pourtant j'étais un élu de banlieue. Hein. Donc il faut accepter une part de don de soi qui marche, comment dire, qui s'abandonne aux règles qui vous permettent d'être compris et entendu par tous, parce que c'est quand même ça l'objet. Quand on est député, le rôle à la fin va être différent. Donc pour moi c'est plus facile, on pourrait dire d'une certaine manière, je retrouve mes habits de tribun du peuple, je suis fier de ça, de cette appellation. Certains me l'ont jeté à la figure en croyant que ça allait me meurtrir, c'est le contraire, c'est un honneur pour moi. Tribun du peuple, comme l'étaient les tribuns romains, ça me va tout à fait. Mais c'est plus le même rôle. Alors vous me voyez là, depuis le début de la campagne des élections législatives, je monte sur des chaises, sur des tables, sur des caisses, et avec un porte-voix ou un micro, et je harangue, j'ai retrouvé... l'habit du tribun du peuple. Mais vous avez raison, ce n'est pas simple.
Parce en termes de motivation, il y a une baisse. Il faut se remotiver, remobiliser.
Non, il faut bien... Bon, vous l'avez dit, hein, j'ai mon âge, j'ai un long parcours. Donc, heureusement, j'ai quand même appris 2-3 trucs en route. D'abord, à se méfier de soi, à pas trop écouter ses mélancolies et le reste. Et voyez-vous, j'ai eu de la chance, à la sortie de l'élection présidentielle, ma première sortie de terrain, ça a été à l'usine GMS, et j'ai retrouvé les miens. Les visages tendus par l'effort, la peine et la peur, parce qu'ils vont peut-être perdre leur emploi, parce que la moyenne d'âge c'est 49 ans et qu'on leur parle de mobilité quand on est dans la Creuse, ça c'est pas possible à entendre. Et à ce moment-là, c'est le vaccin, quoi. Vous rappelez pourquoi vous êtes là, qui vous êtes et quelle est votre place dans la vie. Alors j'ai plein de gratitude pour eux. Donc ça, c'était, je ne vous cache pas que vous mettez le doigt au bon endroit, parce qu'il fallait passer d'un rôle à un autre, mais alors eux, ils m'ont aidé, hein, ça c'est clair. En 5 minutes, je savais ce qui me restait à faire.
Michel Guéraud.
Alors on va aller du national au local. Une première action sur les premiers pas du gouvernement et symboliquement, cette volonté de réformer la loi travail. Votre réaction, vous avez déjà entendu là-dessus, mais on peut y revenir parce qu'on est à Marseille et oui. Il y avait beaucoup de monde dans la rue.
Ben, c'est très frappant.
Sur la loi El Khomri.
C'est très frappant de voir que ce soit par là que commence le gouvernement. Vous voyez, bon, les problèmes que rencontre le commun des mortels, le premier, les gens ont une conscience quand même, c'est pas des animaux. Ils savent qu'il y a un problème avec le changement climatique. Alors là, pas de parole de la France sur le sujet. Ils savent qu'ils ont tous un problème et que le logement, en fait, 10 mètres dans une rue à Marseille et discuter avec une personne sur trois, ils vous diront, ah ben voilà, j'ai pas de logement où on vit à 5 dans un truc. Et c'est pas que Marseille, c'est partout comme ça. Et bon, non, rien de tout ça ne compte. Les écoles, le travail, rien. Le code du travail, voilà ce qui les obsède. Donc on a un gouvernement qui a tout de suite une ligne de classe, hein, au sens le plus traditionnel du terme. Et vous avez Monsieur Gattaz qui glapit. Allez, on a assez discuté, maintenant il faut trancher. Et puis vous avez Castaner que vous avez quand même connu, celui-là.
Ah oui, il est venu dans ce studio.
Bon, alors celui-là est toujours au PS. Mais alors il est là pour dire, bon, ben, vous n'avez pas le droit de bloquer. Il s'attend déjà à ce qu'il y ait une réaction populaire. Déjà, il n'est pas malin parce qu'il croit qu'il a gagné. C'est pas évident. Donc oui, je suis frappé de cette espèce de hargne sociale qu'a ce gouvernement à peine installé. Le code du travail, il faut bien comprendre tout, je vais me résumer en quelques mots. D'abord, c'est une histoire d'un siècle et demi de lutte, page à page. droits des travailleurs par droits des travailleurs sont des choses qui ont été arrachées. Jamais personne ne les a fait cadeau en disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pour les gens qui travaillent. Tout a été arraché. Et puis, les pages qu'ils veulent maintenant enlever, c'est celles qui garantissent aux gens leurs horaires de travail, la durée du travail dans la journée, la paye qu'ils vont avoir, la durée du travail dans la semaine, les délais de prévenance. Tout ça, ça peut paraître abstrait quand on est dans un bureau et que on coche des cases et des croix, mais dans la vie de tous les jours des gens, ben c'est la vie elle-même. Et donc, il y a très grand danger à cette modification du code du travail que personne n'a demandé, sinon eux. Moi, je ne connais pas un Français qui m'ait dit « Dites donc, monsieur Mélenchon, pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait changer le code du travail ?» Bon, non, personne ne demande ça. Qui le demande ? Le patronat, parce qu'il s'agit d'abattre les protections qui garantissent aux salariés leur droit de vie. Vous savez, les gens, si vous les laissez faire, voilà ce qui va se passer. Chaque boîte va changer. Oui, dans chaque entreprise, on va d'une manière agile définir le temps de travail, blablabla. Ça veut dire que c'est le pire dans telle entreprise, et par conséquent, dans telle autre où le patron, bon, a pas envie de martyriser ses gars, ses compagnons ou ses compagnes, ben, il est obligé de s'aligner sur le plus mauvais statut social, parce que sinon, il n'est pas compétitif. Donc, c'est une machine à s'entretuer que, sur le plan social, que M. Macron va armer. Et je vous garantis que ça ne va pas se passer comme ça.
En même temps, les chiffres du chômage sont tombés, ceux du mois d'avril. 36 000 chômeurs en moins. Certains disent que c'est par le biais de la loi El-Khomri, la loi du travail dite loi El-Khomri. M. Macron souhaite l'améliorer, en faire une loi, comme vous dites vous-même, XXL. Il reçoit en même temps, il reçoit les syndicats. Vous dites quoi finalement
comédie,
il est de mauvaise foi.
Comédie, ou... tout ça, c'est du baratin, du blabla. Alors ce mois-ci, il y a 30 000 chômeurs de moins par rapport à combien ? Dans quelle catégorie ? La catégorie A, ceux qui n'ont jamais eu une heure de travail, ou bien ceux qui ont travaillé moins de 72 heures. Tout ça, c'est du baratin. La moitié du temps, on découvre que où les gens ont été rayés, radis en paquet, donc ça fait un solde positif. Tous les mois, il y a une arnaque. Quant au fait que M. Macron reçoive les syndicats, déjà, il le fait, je crois, en tant que nouveau président de la République, et tant mieux qu'il le fasse. Mais c'est du jamais vu non plus. Depuis quand on discute avec les syndicats dans le bureau du président ? Il y a un premier ministre, il y a un ministre du Travail, quand même. Bon, bref, maintenant, ils sont en train de les recevoir. Mais c'est pas parce qu'il les reçoit que ça change quelque chose. C'est le même calendrier, c'est le même fond. Et il est pas obligé de faire ça. C'est quand même ça, le point de départ. On va pas reconnaître comme une faveur le fait qu'il rencontre les syndicats pour leur parler à propos d'une loi que personne ne lui a demandé. Sinon, le MEDEF...
Michel. Première annonce, une volonté d'aller vite hein, dans la première année, réforme de l'assurance chômage,
ouais.
La réforme du système des retraites, aussi une réforme en profondeur est-il annoncé? Vous pensez, alors il y a une volonté d'aller vite là, vous pensez que ça, il n'y a pas, les gens sont un peu, il y a eu ce succès, la présidentielle, il
ouais.
y a cet élan, ça va passer ça
Non,
va passer.
D'abord il n'y a pas d'élan, c'est pas vrai. Monsieur Macron a été élu par défaut et personne n'a compris ce qu'il comptait faire parce qu'il ne s'en est jamais expliqué et qu'on n'a jamais eu l'occasion de lui demander des explications. Ça, c'est le bilan aussi médiatique de la campagne présidentielle. C'est 16 heures passées à parler des costards de Fillon. Et Monsieur Macron peut passer à TF1 et dire « Je vais faire une réforme de la retraite. Pour chaque euro cotisé, chacun aura les mêmes droits. » Hop, on pile bouquin, il se taille, la discussion est terminée. Personne n'a compris de quoi il s'agissait. Moi, j'ai compris. Ceux qui sont des spécialistes de ces questions ont compris que c'est le système de retraite par points. Le système des retraites par points, c'est la cotisation est fixe, mais la pension, elle, ne l'est pas. Et je ne vais pas ici prendre le temps de développer ce qu'est le système par points, mais c'est une véritable révolution. Et comme il est malin, il dit « Ah ben ça concerne pas ceux qui partiront à la retraite dans les 5 années qui viennent ». Il oublie de leur dire que de toute façon, ils partiront à 62 ou à 63 ans, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est seulement après que va commencer à s'appliquer le nouveau système. Bon, donc il espère que les gens ne se rendent pas compte que ça s'applique à eux et que ce sera pour les générations futures. Ce sont des mesures d'une férocité extrême. Ça correspond à la feuille de route la plus dure qu'ait fixée la Commission européenne à tous les pays d'Europe. Et c'est avec ça qu'on marche partout à la catastrophe sociale et au choc de tous les côtés. Et vous avez raison de dire qu'il veut aller vite, il veut essayer de profiter de l'effet de stupeur. Mais on est en France ici, pépère. Ça va pas se passer comme ça, les gens y réfléchissent. Et au mois de septembre, après avoir pris leurs vacances, tout d'un coup, la poussière va être tombée. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce type ? Qu'est-ce qu'il veut nous prendre encore ? Parce que c'est ça dont il est question.
Alors les ordonnances estivales, c'est forcément pour aller vite, pour pouvoir prendre de vitesse les gens là ?
Évidemment. Parce que les gens étaient saturés, on comprend pas tout, on nous explique, on explique mal dans les médias, on explique mal les choses. Je parle des médias de masse, hein, la télévision publique est une machine à bourrer le crâne des gens qui pratiquent d'une manière indigne des impôts qu'on leur donne pour les payer, l'information publique ou des grandes chaînes privées qui passent vite parce qu'ils pensent que c'est pas vendeur. Vous savez, j'ai une scène où je suis avec Monsieur Bourdin, qui est un journaliste que j'aime bien, comme vous le savez, quoique des fois nous rencontrons soit assez piquante. Mais un jour, je lui dis, vous n'êtes pas fatigué de parler de toutes ces bêtises, pourquoi on ne parle pas des retraites ? Et il me répond du tac au tac, parce que les retraites, c'est 5% d'audimat. Bon, voilà. Alors voilà, à partir de là, comment on n'explique pas ? Les gens ne se rendent pas compte de ce qui leur pend au nez. Mais vous avez raison, ils comptent sur l'effet de rapidité pour essayer de prendre les gens de court, avant qu'ils aient le temps de réagir. C'est pourquoi, je termine en disant, il y a un moyen. Vous voyez comment on parle, les trois, là. On fait comme s'ils avaient gagné, mais vous savez qu'ils peuvent perdre. Il y a encore une élection, c'est pas une formalité. C'est l'élection législative.
On y arrive. Une dernière question, quand même, sur les promesses, les premières annonces. Est-ce que, vous qui vous parlez, on va le dire, peut-être de cohabitation, pourquoi pas, on en parlera. Est-ce qu'il n'y a pas un élément des promesses qu'a pu faire Macron qui pourrait vous convenir, à savoir les questions de moralisation de la vie politique ? Ça fait partie des premières choses mises sur la table. Il y a le député René Dosière qui vient de mettre 12 propositions, encadrement du financement public des partis. Est-ce que sur ce point-là, il y a quelque chose qu'on pourrait prendre ?
Oh, évidemment, vous savez bien, oui, on va dire oui, mais la vraie moralisation.
Il y a eu une promesse comme ça de l'image Macron, la fraîcheur, le renouvellement. Enfin, il a été aussi élu, il a peut-être trompé, vous allez nous le dire à certaines personnes, mais il y a eu ces promesses-là qui ont pu porter.
Oui, bien sûr. Enfin bon, il a fait 23%, hein, enfin 18% des exprimés. Mais les propositions de Dosière, comme les autres, bon d'abord elles sont... c'est pas la mort, hein. Alors je vais vous les lire. Encadrement du financement public des partis, de quoi il s'agit, on ne sait pas. Obligation pour tout candidat d'avoir un casier judiciaire vierge et d'obtenir un quitus fiscal pour tout élu. Là, on est d'accord. C'est des choses que je réclamais moi-même. De même, là, par contre, je vois pas interdiction d'être élu si on a été condamné une fois et inéligibilité à vie. Alors il y aura des mesures. On va dire oui, d'autres non. Mais c'est pas le sujet. Le sujet de fond de la démocratie française. S'il y a tant de problèmes, c'est parce qu'il y a une caste qui s'est formée. Cette caste, elle va de la haute fonction publique aux banques, aux grandes entreprises et au pouvoir de l'État. Ils sont là. Jamais le pouvoir n'a été autant à la caste qu'en ce moment. Regardez qui sont les ministres. Des gens recyclés des différents partis, plus toutes sortes d'anciens chefs de cabinet, directeurs de ceci. Alors l'ancienne DRH de Nestlé, l'ancien PDG de cela. Bon, c'est la caste, le cœur de la caste qui est là au pouvoir. Bon, et puis le vrai contrôle, la vraie moralisation de la vie publique. Mais allez-y, faites-le. Faites le droit de révocation des élus, c'est-à-dire donner le pouvoir au peuple quand le peuple décide que ça ne va plus, de faire une pétition. Dans cette pétition, s'il y a le nombre X de signatures avec le numéro de la carte d'électeur, à ce moment-là, on organise un référendum pour révoquer l'élu, pour dire, bah, écoute, c'est bon, dehors, hein, ou allez, on vote. On fait un référendum, oui ou non. Alors si c'est, on le révoque pas, bah, si c'est oui, bah, il s'en va. Et ça serait un vrai contrôle. Le reste, c'est parole verbale. Vous croyez qu'il n'y a pas de règle morale aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas écrit texto, pas d'emplois familiaux. Vous croyez que c'est à cause de ça que les gens emploient Non, bien sûr que non. C'est parce que, quelle que soit la règle, il y a toujours une faille. Et les importants, c'est la faille qui regarde d'abord. Comment ils peuvent vous arnaquer ?
En même temps, vous avez dit tout à l'heure que tous ceux qui avaient voté pour Macron n'avaient pas voté pour son désir de réformes estivales, d'ordonnances estivales. Mais les gens aussi ont envie d'avoir des solutions pour le chômage, c'est la préoccupation principale.
Oui.
Quand on parle de flexibilité, ça ne choque plus tellement, les gens ne descendent plus dans la rue forcément. La flexibilité d'ailleurs a été essayée en Europe, en Italie, avec un certain succès.
Non.
En 2014, elle a été essayée en Italie.
Oui, ça ne marche nulle part. Nulle part ça ne marche en produisant autre chose que des bas salaires et des pauvres. Le pays qui a été le plus loin dans la flexibilité, c'est sous la réforme Hartz IV de Monsieur Schröder, n'est-ce pas ? Ils ont réussi ce tour de force que dans la première économie du vieux continent, il y a 12 millions de pauvres. Ah, c'est grandiose réussite. Et vous avez des emplois à 1 euro de l'heure. Et comme même ça, ils trouvaient ça trop cher, ils embauchent les Syriens qui viennent à 0,80 euros de l'heure. Donc ce n'est pas vrai. Leur système ne marche pas. Il détruit tout partout. Moi, j'ai des réponses concrètes. des réponses concrètes que j'ai chiffrées, que j'ai expliquées. J'ai passé 10 heures à expliquer ça aux gens. Si on fait de l'investissement, si on fait la transition écologique, pas pour refaire mettre du vert dans le programme, mais pour vraiment transformer la nature même de l'économie, les process de production, les machines, la manière de produire et donc de consommer, qui est un grand problème. À ce moment-là, oui, on créera des millions d'emplois. Et on créera des emplois aussi dans les domaines où ils sont réputés insolvables aujourd'hui. Je pense à tous les besoins sociaux. C'est pas vrai qu'on manque de travail. Vous le savez comme moi, c'est pas le travail qui manque, ni les raisons de travailler. Ce qui manque, c'est les moyens de le financer. Et comment
vous peut-être aussi réformer les contrats. Le CDD est devenu trop important, trop rare. Le CDI, pardon. Le CDD ne convient pas. Quelque chose entre les deux.
Non, pourquoi faire?
Et on revient à la réforme Bonzi, oui.
Mais pourquoi faire? Le CDI, c'est très bien. Pourquoi? Le CDD, avant, on appelait ça contrat atypique. Je me rappelle, au début, qu'il y avait des agences d'intérim, il y avait des copains qui allaient jeter des pavés dans les vitrines où ils écrivaient dessus « esclavagiste ». Et maintenant, comme vous le dites, ça s'est tellement banalisé. On a été, c'est un mot savant, mitridatisé, comme le roi Mitridate qui se tapait toujours un peu de poison pour être sûr de ne pas pouvoir se faire empoisonner. Bon, ben voilà. Alors, à force, on entend flexibilité, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Oh, d'ailleurs, tout le monde s'en fout, parce qu'à la fin, tout le monde a compris que, quel que soit le mot, agilité, modernité, flexibilité, c'est toujours pareil. C'est les gens du commun qui payent. Mais je voudrais vous montrer le gâchis que c'est. Parce que c'est pas seulement un gâchis social, ça suffirait à nous indigner, mais c'est un gâchis intellectuel. Quand vous embauchez un chercheur, ou vous embauchez quelqu'un à qui vous faites appel à la matière grise, que vous le mettez en situation absolument incertaine, qui ne sait pas ce qui va devenir à la rentrée suivante, qui ne sait pas si son contrat de recherche va être renouvelé. Vous croyez que c'est les conditions idéales pour faire de la recherche fondamentale ou de la recherche pratique? Je prends un exemple exagéré avec la recherche, mais ce qui est vrai pour un chercheur est vrai pour n'importe quel travailleur. C'est pas la peur qui vous motive au travail. Les gens sont pas spontanément des feignants et des tirs au flanc. C'est pas vrai. Tout le monde aime faire son travail et bien le faire. Quel que soit ce travail, mais c'est la peur qui vous empêche de le faire correctement. Et voilà, c'est contre tout ça que moi je lutte. Alors peut-être que j'aurai pas le dernier mot, mais en tout cas il sera pas dit que personne n'a protesté.
Michel. Alors, on voudrait parler avec vous de ce moment de décomposition, recomposition politique qu'on a vu à la présidentielle et qui continue avec législative.
Oui.
Il y avait deux mouvements qui ont fait finalement la promesse de dépasser les partis. Il y avait En Marche, il y avait La France Insoumise. Même combat, en tout cas c'est la marche qui a gagné. Est-ce que là il y a quel serait le point commun et le point de différence sur cette histoire des partis, du dépassement des partis?
Bon, c'est une formule un peu, vous savez, attrape tout. Hein. Les raisons pour lesquelles dans la famille progressiste il faut dépasser les structures de partis ne sont pas les mêmes que celles qui conduisent dans la famille réactionnaire à dépasser le parti. Le parti, le mouvement de Monsieur Macron, en effet, procède d'une logique formelle qui est comparable à la nôtre. Il y a une plateforme Internet, mais la comparaison s'arrête là. Après, lui, il a compartiment par compartiment des entreprises qui font le travail, et nous avons compartiment par compartiment d'action, hein, des structures et des mécanismes inclusifs. On parle pas du tout donc de la même chose. Alors, bon, pour ma part, j'ai théorisé sur ce sujet, pourquoi on passait des partis au mouvement, dans le livre L'ère du peuple, où je montre un nouvel acteur, le peuple, qui est un mot qui met mal à l'aise dans la gauche traditionnelle, parce que ce n'est pas ce mot-là qu'on employait. On parlait du prolétariat, de la classe ouvrière, etc., mais pas le peuple, parce qu'il y a une insuffisance d'analyse et de réflexion théorique sur le monde du XXe siècle, qui n'est plus seulement le monde, bien sûr que la bataille pour l'appropriation des richesses reste centrale, et donc que la lutte de classe reste un phénomène central dans nos sociétés, mais pour autant, nous devons comprendre maintenant qu'il y a toutes sortes d'autres acteurs, autres que les producteurs, qui interviennent dans le changement, aspirent au changement ou à l'autocontrôle. Ben, c'est les gens qui étudient et donc rentrent très tard dans le travail. C'est les chômeurs, et pour autant, ils ne sont pas des néants sociaux. C'est les gens qui sont en situation de handicap, c'est les retraités, c'est le petit peuple, d'une manière générale, des gens qui ont en commun des conditions sociales communes, c'est-à-dire des réseaux. Vous dépendez tous de l'électricité, de la rue, du gaz et de ces choses-là. Et là, je résume, excusez-moi, je ne veux pas être trop abstrait, mais voilà comment j'ai théorisé, je suis arrivé à l'idée de la formation du mouvement La France Insoumise. Et ce mouvement n'est pas un parti. Vous participez, si vous voulez, vous cliquez, vous inscrivez, et ensuite vous décidez quel va être votre niveau d'intervention. Est-ce que ça va se limiter à envoyer des sous, ou est-ce que vous allez participer à une action, est-ce que vous allez faire un groupe d'appui? Il y a maintenant plus de 4000 groupes d'appui de La France Insoumise. Mais nous tenons absolument à cette forme. Alors, une fois que vous mettez ça en place, ben, si vous voulez, la religion partidaire, elle s'effondre. Alors, qu'est-ce qui tient un mouvement ensemble? Ben, c'est son programme. D'où l'importance centrale pour nous du programme L'Avenir en Commun, en tant que fédérateur du peuple français. Les gens qui se reconnaissent dedans, on ne leur demande pas ce qu'ils pensent par ailleurs. Mais sur le programme, est-ce qu'on est d'accord, en tant que fédérateur, et surtout en tant que fédérateur du mouvement. Donc voilà la réponse que j'apporte à votre question.
Mais ça interroge, par exemple, est-ce que vous voulez dépasser la gauche ou la réinventer ? Macron, par exemple, qui vient de la gauche, dit la gauche, ça ne veut plus rien dire. Moi, je suis et de droite et de gauche. Vous vous dites quoi, alors ? La gauche, c'est un vieux, c'est un mot qui ne fonctionne plus.
Commençons par lui, c'est quand même... c'est un malin, bon, il est malin, il est porté par des forces sociales très claires, hein. Bon, on va pas raconter d'histoire. Les 9 milliardaires qui possèdent les médias ont quand même longuement gonflé à l'hélium monsieur Macron. Imaginez-vous que ce soit moi qui ai été dire à Nice à des pieds noirs, je vous ai compris, je m'en mangeais pour 15 jours de presse en disant ce type est fou. Là, 24 heures après, ça a été terminé, on parlait d'autre chose. De même de toutes les bêtises qu'il a pu dire pendant toute la campagne, de ces salles de meeting où il manquait du monde, bref, il a été extrêmement choyé par les puissants, qu'on ne revienne pas d'avoir réussi à caser un type pareil à une place pareille, et qui compte faire ce qu'il a dit. Bon, on va voir. Mais alors, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne la gauche, écoutez, nous travaillons tous sur la base d'une déroute. Notre camp, la gauche, est fracassé. Il a commencé en deux temps. Premier temps, l'effondrement du mur de Berlin qui a liquidé le communisme d'État et ses succursales nationales. Et puis ensuite, il y a la chute de la social-démocratie. Ça fait moins de bruit, mais c'est tout aussi spectaculaire. Dans la moitié des gouvernements d'Europe, c'est la droite et la gauche, entre guillemets, qui gouvernent ensemble, c'est-à-dire la social-démocratie et la droite. C'était le rêve, ils y sont arrivés en France. C'est M. Macron qui a réalisé ça, cette forme de coalition entre des socialistes et des gens de droite. Bon, le mot « gauche » est complètement faussé aujourd'hui. Quand vous dites « gauche », vous n'avez plus de quoi vous parler. Vous passez dans la rue, vous voyez une affiche et marquez votre député de gauche. Le gars, c'est un gars du PS. Vous ne savez pas si le lendemain, il sera en train de magouiller avec Macron, s'il sera dans l'opposition, s'il sera dans le sous-sol ou s'il sera au plafond. Donc le mot a été tellement démonétisé, tellement mis à toutes les sauces, que vous perdez votre temps à l'utiliser, parce que vous êtes obligé de dire « Ah ben attendez, je suis la gauche, oui, la vraie gauche. » Ah bon, alors le gars qui a déjà rien compris, ah bon, il y a une vraie gauche puis une fausse gauche, mais comment c'est possible ? Et en deux temps, trois mouvements, vous avez perdu, parce que des gens comme moi se font mettre à l'extrême gauche. On dit « Vous êtes l'extrême gauche. » Je ne suis pas d'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est M. Besancenot, c'est Mme Nathalie Arthaud. Bon, c'est eux, ils assument. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche, je suis autre chose. Je suis l'humanisme écologique et social, bon, vous le savez. Donc, nous n'avons pas intérêt à passer sur ce terrain. Ça a été le plus dur à faire comprendre à beaucoup de copains, et encore maintenant, qui renaquent. Dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, peut-être dans 10, on reviendra à des formules plus classiques, la droite, la gauche, parce qu'elles-mêmes, elles se seront régénérées. Mais vous savez, la droite est encore en plus piteux état que la gauche, et c'est possible, hein. Ils sont dans le même état. Vous avez qu'à regarder Marseille, ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe dans le pays. Vous avez des gens de droite qui n'ont plus de représentation politique. Alors, dans ma circonscription, ils ont de la chance, parce que Mme Biagi, elle n'a pas changé d'avis, et donc ils ont un repère pour ceux qui sont de droite. Ils ont le droit, c'est pas la guerre civile dans ce pays. Ils ont donc le droit d'avoir une représentation politique. Mais le reste, vous savez bien, M. Gaudin s'en va. Qui ça va être le chef de la droite à Marseille ? On n'en sait rien. Et puis, la gauche, j'ai vu dans ce qu'on appelle la gauche, vous avez vu dans quel état ils sont. Donc, le défi pour nous, c'est pas de nous emparer d'une étiquette, c'est de faire vivre une idée. Et c'est à travers le programme L'Avenir en Commun qu'on fait vivre cette idée. C'est pourquoi moi, je ne me sens pas autorisé à aller faire des marchandages partisans et tu me donnes tel circo et moi je te donne tel autre et en plus je te promets telle mairie et toutes ces salades. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, il faut faire face à une situation radicalement nouvelle. Je vous dis pas qu'à une autre étape, il n'y aura pas à nouveau des négociations. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est assurer la pérennité, la continuité d'une idée et d'un idéal à travers les formes qui correspondent à notre époque. Je pense que la France insoumise, je ne fais pas le malin. Je ne sais pas vous dire comment on fait marcher la France insoumise dans la durée. Nous sommes 500 000. Personne n'a jamais connu dans ce pays un mouvement à 500 000 membres politiques. Personne. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je vous dis, qu'est-ce que vous comptez faire en septembre ? J'en sais rien, monsieur. Je ne sais pas. Nous allons, petit à petit, par notre improvisation, notre pratique, essayer de faire vivre quelque chose qui ne soit pas la forme partisane, ni ces succès d'année, l'Assemblée Générale permanente qui saoule tout le monde.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, avec comme invité Jean-Luc Mélenchon. L'étiquette pour remplacer, ou plutôt le programme pour remplacer les étiquettes. On reste là-dessus, Michel Guéraud.
Ben, certains s'interrogent justement vis-à-vis de cette stratégie en disant « Mais est-ce que la France insoumise ne vise pas à une position hégémonique ?» Dans ce refus des unions de partis, des accords d'appareil, etc., est-ce que...
Bah,
c'est-à-dire nous ou personne.
Je comprends. Mais non, c'est pas nous ou personne. C'est qu'on a expliqué à nos interlocuteurs ce qu'ils ne veulent pas entendre. Alors, il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Hein. C'est-à-dire que, de toute façon, ils nous aiment pas depuis le début. Et moi, en particulier, toutes les occasions sont bonnes de venir broder sur tous mes défauts. Bon, alors ça, je le mets de côté, ça compte pas trop. Mais j'essaye de faire réfléchir à la chose suivante. Je me suis présenté avec en disant aux gens, écoutez, voilà la base du programme à discuter. On l'a discuté, on l'a remis à jour. Et je vous propose ma candidature. Vous m'appuyez, donc vous appuyez le programme. Voilà, c'est tout. Après, ça les gens qui m'aident ne me donnent pas mandat pour ensuite aller négocier des circos. Écoutez, on a eu une discussion, on a essayé d'expliquer ça au Parti communiste au niveau national. Hein? Alors, ils ne voulaient pas d'alliance. Puis après, tout d'un coup, ils en veulent une, parce que quand même, la Marie est belle à 20%. On vient me voir et on me dit, bon, bah alors, pour commencer, tous les sortants. Bon, très bien, tous les sortants, y compris ceux qui ne m'ont pas parrainé, d'accord. Et puis après, on leur dit, mais c'est 1-1. Elle dit, oui, 1-1 pour tout le pays. Donc, le Parti communiste me demande 50% des circonscriptions. Vous me voyez en train d'aller dire aux gens, écoutez, vous avez voté pour moi, ça me donne le pouvoir de dire que dans 50% des circonscriptions, je m'en vais, vous allez voter communiste. C'est pas possible. Donc, je l'ai dit, c'est une affaire de bonne foi. Je leur dis, écoutez, le programme, oui. Les étiquettes, non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas marchander ça. Donc, ce n'est pas une volonté hégémonique, c'est une affaire de respect.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, cette question du PC, des alliances, etc., dans les législatives qui arrivent, on se retrouve, par exemple, en PACA, dans le Vaucluse, chez Bompard, député d'extrême droite sortant qui ferait passer presque Marion Maréchal Le Pen pour une centriste. On se retrouve avec un candidat France Insoumise, un candidat PC, un candidat écologiste. Mmh. On comprend qu'il y a du désarroi vis-à-vis d'un certain nombre d'électeurs qui aspirent à avoir peut-être
à
des gens qui vous ont soutenu tous ensemble au même moment et qui se retrouvent maintenant chacun de leur côté.
Jean-Luc Mélenchon.
Il y a des gens qui disent
qu'il faudrait une pétition pour que vous ayez des...
Bien sûr, je le comprends. Je comprends que les gens aspirent à ce qu'on se rassemble. Mais la réponse est que je ne recommencerai pas le cirque des élections régionales avec les alliances à géométrie variable dans un même département d'une circonscription à l'autre. Parce que qu'est-ce que ça donne ça? À la fin, vous avez des miettes partout. Vous n'avez aucune force sur laquelle vous appuyez. Alors bien sûr, c'est très dommage qu'il y ait des situations comme celle-là. Mais il y avait une manière de le régler. C'était d'avoir un accord national. Et un accord national honnête. Pas un accord national où on vient magouiller avec l'un et en même temps magouille avec l'autre. C'est-à-dire qu'on vient me dire...
On ne va pas parler par les toits. Vous visez qui quand vous dites ça, Jean-Luc Mélenchon?
Eh bien, par exemple, je vais prendre...
Parti communiste?
Europe, Écologie, Les Verts. Non, les communistes, c'est le plus facile parce qu'on savait depuis le départ qu'on ne s'entendait pas. Les communistes avaient dit qu'il n'y aurait jamais d'accord avec nous, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est regrettable, mais chacun d'entre nous...
Les communistes
ont une loyauté dans leur comportement. Ils ont décidé qu'ils ne feraient pas d'accord national, qu'ils voulaient que des accords locaux. Nous ne sommes pas d'accord, que voulez-vous? Il faut bien que l'affaire soit tranchée. Moi, je respecte leur attitude. Mais je prends l'exemple d'Europe Écologie Les Verts. C'est pareil, ils nous ont proposé un label commun. Et on n'en voulait pas au régional. C'est quoi ce label commun? Alors vous allez avoir un label commun avec moi, la France Insoumise, puis dans la circo d'à côté avec les socialistes, puis celle d'à côté avec un macroniste. Qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Non, je ne veux plus jouer à ça, voilà. J'en ai marre. Je ne veux plus. Et comme moi, des milliers de gens ont par-dessus la tête de ce genre de combine qui détruit leur force. Maintenant, il est évident que face au Front National, il faudrait qu'on soit capable... De se regrouper. Mais pas n'importe comment, on ne va pas nous-mêmes instaurer que le Front National est tellement important que, bon, du coup, allez, on oublie tout, et dans la panique, comme des moutons, on se regroupe. Comme est-ce qu'à Marseille, pour passer devant le Front National aux élections présidentielles, il y a eu besoin de blablabla se regrouper? Dois-je rappeler qu'il y avait un candidat socialiste? Il y avait un candidat soutenu par Europe Écologie Les Verts. Ça avait l'air de déranger personne. On est quand même passé devant. Eh bien, je trouve ça bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens ont réfléchi. Et ils prennent une décision. Il faut arrêter de compter sur la peur et l'affolement pour faire passer les vieilles combines.
On va revenir sur l'OFN, mais un mot sur le PS. Alors, en arrivant à Marseille, vous avez dit, je veux remplacer le PS. Alors, il y a eu une polémique autour de votre présence la troisième, face à Menucci. Pourquoi face à un socialiste et pas, etc. Mais vous avez utilisé cette formule-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Remplacer le PS, devenir la première force de gauche?
Ouais. Ça c'est clair, devenir la première force de la ville. Mais pourquoi j'ai répondu ça? Parce que quelqu'un m'a dit, vous voulez affaiblir le PS? Bon, alors comme j'en suis à la millième fois à répéter que c'est pas moi qui affaiblis le PS, c'est bien affaibli tout seul, et que s'il avait moins trahi les gens, on n'en serait pas là, parce que quand même, mine de rien, on parle de la France Insoumise, heureusement qu'elle est là. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce pays ? Il y aurait juste le désastre du Parti Socialiste, hein, et puis autour des poussières de petits partis ayant des petits scores. Heureusement que la France Insoumise est là. Parce que sinon, des masses de gens qui sont en état de protestation se seraient soit abstenus, soit auraient voté pour des fachos, en étant très fâchés eux-mêmes. Bon, donc on me pose la question, on me dit, est-ce que vous allez affaiblir le PS ? Mais non, mais c'est pas mon sujet, moi, affaiblir le PS, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le remplacer, ai-je dit. Pourquoi ? Parce qu'il faut être positif, il faut aller de l'avant. On va pas passer notre vie à regarder ça et à dire, ah là là, c'est bien triste. Donc, c'est parce que je répondais à quelqu'un que j'ai répondu comme ça. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était bien, comme on faisait le procès, on m'a dit, ah, vous voulez remplacer le PS ? Je dis, ah ben finalement, oui, c'est une bonne formule. Oui, en quel sens ? Au sens où le Parti Socialiste a été pendant longtemps un parti de progrès dans lequel on avait confiance, dans lequel les classes moyennes et les prolétaires se retrouvaient ensemble. J'ai été membre 32 ans du Parti Socialiste. Moi, j'ai pas de haine pour le Parti Socialiste. Tous les socialistes dont vous me parlez ici, je les ai tous connus dans les congrès. Je suis resté fidèle à mon idée, l'idée que je me faisais quand j'ai adhéré au mouvement socialiste, qui était une idée du socialisme révolutionnaire, d'une transformation profonde de la société à travers le programme commun. C'est à ça que j'ai adhéré. Bon, alors, voilà, je suis resté fidèle à ça, et aujourd'hui, je pense que, bien sûr, tout a changé, mais la base, si vous parlez avec des jeunes gens aujourd'hui, leur conscience collectiviste, elle est très forte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une conscience écologiste, et ils comprennent qu'il n'y a qu'un seul écosystème, compatible avec la vie humaine. Donc, nous devons viser à avoir un système politique qui entre en harmonie avec la nature et les animaux. Voilà. Il y a rien de changé par rapport à mon enthousiasme de jeune homme sur le fait que l'argent ne doit pas mener le monde. Les intérêts particuliers ne sont pas l'horizon indépassable de l'humanité. Au contraire, c'est l'intérêt général. Bon, pardon si je vous donne l'impression de réciter mon catéchisme, mais c'est parce que j'y crois.
Vous pensez, vous le dites, on peut gagner cette élection, la France insoumise, on peut aller à une cohabitation. Quand on voit les sondages, on les connaît, il faut s'en méfier, d'accord, mais l'écart, enfin, on donne 15 à 20 députés en ce moment, un raz-de-marée en marche, le LR qui se maintient, le PS effectivement qui décroche. Vous pensez que c'est gagnable ?
Mais oui, je d'abord,
c'est une posture, c'est pour mettre en avant,
non,
en marche les gens.
Commençons par une affaire de fond, si vous voulez. Hein. Commençons par une question de principe. Quand on commence une élection, on ne demande pas aux gens de venir renforcer un parti. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. On vient dire, écoutez, on a tel programme et on voudrait l'appliquer. Donc, vous partez dans une logique gagnante. Tout autre discours est un discours étroit, mesquin.
Bon. C'est l'optimisme de la volonté.
Mais par la force des choses. Et je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que ça. Ensuite, il y a cette histoire de sondage. Mais vous savez très bien que les sondages ont un espèce d'effet... autoréalisateur. Alors on vous dit, ah ben ça sert à rien, ça sert à rien. On a répété sur tous les tons que Madame Le Pen serait au deuxième tour et même en tête. À 600 000 voix près, c'est nous qui la grillons. Alors peut-être que si certains avaient passé moins de temps à me taper dessus dans les 15 derniers jours et à répéter sur tous les tons que je pouvais pas y arriver, s'ils avaient bien voulu simplement me lâcher et s'occuper un petit peu de parler d'elle, à ce moment-là j'y serais peut-être arrivé. Donc là ça recommence. On nous dit, vous n'allez pas y arriver, vous pas y arriver. Mais ça devient, c'est plus une élection, c'est plus une démocratie, c'est le jeu des petits chevaux. On attend et on parie sur le cheval gagnant. Ben pas moi. Et je vous dis la chose suivante, vous ne savez pas ce qui va se passer, ni vous ni moi d'ailleurs. Moi non plus je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que les deux partis traditionnels sont effondrés. On ne sait pas si M. Macron, qui a déjà pompé une partie du Parti Socialiste, va réussir à faire une ponction assez grosse sur la droite pour arriver à faire ce qu'on appellerait un raz-de-marée. Mais s'il n'y arrive pas, parce que puisque vous me parlez de sondage... La semaine, là, à la fin, au milieu de la semaine, il y avait un sondage dans le Nouvel Obs, dans l'Obs, pardon. Et il disait, près de la moitié des Français souhaitent une majorité absolue. Alors moi, j'étais regardé, pour M. Macron, j'étais regardé, près de la moitié. Mais déjà, ça fait pas beaucoup, hein, la moitié. Mais alors, quand vous regardez, c'est 43%. Donc, moins de 1 sur 2 pense que ce type doit avoir la majorité dans le pays, alors qu'il vient d'être élu il y a 20 jours. Donc, vous voyez bien que c'est pas si mûr que ça dans les esprits. De s'abandonner à cet homme et de lui donner les pleins pouvoirs. Ensuite, dans combien de circonscriptions va-t-il y avoir des triangulaires ? Dans combien de circonscriptions vais-je être présent au deuxième tour à travers mes candidats ? S'ils reviennent les 7 millions qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, dans 78% des circonscriptions, au deuxième tour, il y a la France insoumise. Je suis incapable de vous dire ce que tout ça donne.
Vous qui prenez le dégagisme, en quelque sorte, oui. Le changement...
Pas n'importe quel changement. Hein.
Prendre le risque d'immobiliser la France comme ça, avec une cohabitation, c'est le moment ?
Alors, bon, ça, c'est un point de vue partisan que vous exprimez, parce que Lionel Jospin a fait une cohabitation avec le président Chirac, la France n'a pas été immobilisée du tout. La preuve, c'est qu'on a rendu tous les comptes sociaux en vert et qu'on a diminué, ça a été la période de plus forte création d'emplois du siècle, grâce aux 35 heures. Donc non, une cohabitation, c'est pas l'immobilisme, pas du tout. C'est tout simplement que ça rappelle à tout le monde qu'on est aussi dans un régime parlementaire, on est dans une monarchie présidentielle.
Mais il n'y a pas le risque de prendre ces législatives pour un troisième tour des présidentielles?
Mais c'est pas un risque, c'est une chance, monsieur, c'est les élections. Sinon, alors pourquoi les faire? Il n'y a qu'à dire, il n'y a qu'un seul tour, le premier, et une fois que celui qui est arrivé en premier, comme le deuxième, c'est Le Pen, hein, on n'en parle pas, donc celui-là, on lui donne tout. Ben non, ça, c'est la monarchie, ici, c'est la République. Donc non, c'est pas... Est-ce que c'est un risque? Non, c'est une chance. Les gens, vous vous êtes fait voler la présidentielle. Vous vous êtes fait tordre le bras jusqu'au milieu du dos, et on vous a dit, allez, il faut tous voter Bessif pour lui, parce que sinon, c'est le grand méchant loup qui va vous manger. Eh ben voilà, vous vous êtes fait avoir, hein. Ben va, très bien. Eh ben maintenant, vous avez l'occasion de dire, je vais voter pour mes idées. Je crois pas à ce truc-là. Je crois pas à monsieur Macron comme des tas de gens. Monsieur, je vous demande pas pour qui vous avez voté, vous non plus. Et vous me demandez pas à moi, vous faites bien, parce que je vous répondrai pas. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je connais des millions de gens qui ont voté pour monsieur Macron. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas voter pour que Madame Le Pen soit élue, d'accord? Donc ça, c'est le fond de l'affaire. Donc c'est pas un risque, les élections législatives, c'est une chance. Allez hop, on va balayer tout ça.
Alors l'émission avance, il faut arriver à parler de Marseille. Parlons du Front National à Marseille, comme ça fera la transition, oui, entre le national et le local. À Marseille, il y a eu une surprise, personne ne s'y attendait. La France Insoumise est arrivée en tête dans une ville où, au régional, le Front National cartonnait, avait fait 45%. Ce phénomène-là, c'est pas produit ailleurs. Est-ce que c'est une des raisons qui fait que vous êtes ici, candidat à Marseille? Et est-ce que cet exploit, vous le pensez éphémère, renouvelable? Qu'est-ce qui se passe avec le Front National à Marseille? Et est-ce qu'il y a quelque chose de duplicable?
Alors, commençons par... est-ce que je crois que c'est reproductible? J'en sais rien. Je vais essayer avec mes amis. Hein, c'est ce que nous voulons faire. Et je vous dirai dans un instant pourquoi c'est vital. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On reste là et on pleure. On regarde la carte de France et on se dit, comme on disait ici avant que j'arrive, hein, on m'avait dit, ah bah à ce rythme-là, en 2020, la mairie, elle est Front National. Me dites pas que c'est pas vrai, tout le monde me l'a dit. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on pleure, on attend, on regarde tout le sud de la France passer au Front National. Et non, il faut se battre, il faut trouver un point d'appui. Une brèche a été ouverte à Marseille en me plaçant en tête, hein, à l'élection présidentielle. Maintenant, nous revenons en équipe, en chassant meute. Dans toutes les circonscriptions, il y a un candidat. Ou une candidate, bon. Et on va essayer d'élargir la brèche et de confirmer le résultat de l'élection présidentielle. Et nous le faisons avec intelligence et stratégie, c'est-à-dire que nous voulons une victoire nette, claire, sans bavure, en face de notre adversaire historique, qui est l'extrême droite. Hein. Bon, je dis pas les gens qui ont voté Front National, parce que c'est un peu plus compliqué que ce que beaucoup croyaient. Mais voilà, en tout cas, on veut une victoire nette. C'est le sens de la candidature de Sarah Swahili. Dans la circo.
Face à Stéphane Ravier.
Mais oui, de Ravier, parce que là, la gauche traditionnelle, la vieille gauche, a fait une erreur terrible. Hein. À moi, on me fait des reproches parce que ceci et parce que cela, mais enfin, c'est pas moi qui ai maintenu...
Pourquoi Mélenchon n'est pas allé face à Ravier?
Oui, c'est incroyable. Hein. Oui, pourquoi pas, en effet. Pourquoi me suis... Pourquoi? Ben parce que j'ai une stratégie, allons, les enfants. J'ai une tête, je réfléchis, j'organise mes coups. J'ai intérêt... Dans la bataille que je mène, j'ai intérêt à ce que ce soit Sarah Swahili qui gagne. Elle, pas moi, elle. Et pourquoi? Alors je vais dire, toi t'es une femme, bon d'accord, t'es championne du monde de boxe, d'accord, t'es docteur en criminologie, dégage, c'est moi qui vais le faire, parce que je sais mieux le faire que toi. Non, c'est elle qui va y arriver. Et c'est important que ce soit elle qui y arrive. Parce que, aux yeux du Front National, des gens comme Sarah Swahili, pour eux, c'est le pire qui puisse leur arriver. Or, nous sommes en train de retourner la situation. L'autre jour, je vais avec elle au Rosier. Alors, on fait le truc, on discute et tout ça. Et à la sortie, il y a un gars qui vient vers moi. Il me prend la main, bien fort, il me regarde dans les yeux, et il me dit, monsieur, moi j'ai voté Front National, maintenant je vote pour vous. Je me suis arrêté, j'ai pris au sérieux et avec respect sa décision. Je lui ai pas dit, quoi, comment vous votiez Front National, quelle est honte, nananana, Adolf Hitler et le reste. Je lui ai dit, monsieur, vous me regardez dans les yeux, vous allez le faire. Il me dit, oui, j'ai compris. Bon. Il a compris qu'il y avait un honneur à être français qui est différent de celui que raconte le Front National. Bon, alors, on va essayer de rééditer l'exploit. Et après, c'était quoi la question?
La question, c'était Marseille. Est-ce que ça peut faire modèle?
Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là.
Et aussi, pourquoi Marseille?
Mais oui, alors je vous explique. Premièrement, est-ce qu'il fallait que j'aille être candidat? Bon, moi, il y avait ma fatigue, je viens de faire 15 mois de campagne. Bon, plus le fait que je m'attends, dès le jour où j'aurais dit que je vais quelque part, aussitôt la machine se met en route. Hein. Le parachuté, gna gna gna, bon, je connais, on m'a déjà fait le coup à plusieurs reprises. Donc, vous partez en vous disant, bon, allez, il s'agit encore d'en prendre un saut sur la tête, et pas quand, si c'était quand, ça passerait. Bon, allez, on a discuté. On a dit, ça tient pas debout d'aller raconter aux gens, on veut avoir la majorité et on veut gouverner, et le gars qui dit ça, il va pas à l'élection. Ah, ça tient pas debout. Donc, on m'a dit, allez, on m'a convaincu. J'y suis allé. Bon, je viens. Apprends où je vais. On a discuté longtemps. Où aller? Parce que des villes où j'étais en tête, il y en avait plusieurs. Il y a Lille, il y a Toulouse, il y a Montpellier, etc., etc. J'aurais pu aller au Havre, hein, si j'avais su que c'était le Premier ministre. Mais bon, pourquoi Marseille? Parce que, premièrement, Marseille, il y a des caractéristiques très particulières. Marseille, c'est la France en concentré. C'est pas vrai dans toutes les grandes villes. Et en particulier, Marseille, c'est une ville dans laquelle la classe moyenne ne joue aucun rôle politique. Elle est prise en tenaille entre les très riches et les très pauvres, et elle est tétanisée par cette situation. Elle ne joue aucun rôle. Les intellectuels marseillais, on en entend très peu parler. Les acteurs de la vie culturelle, pourtant la ville en regorge.
Mais elle est au pouvoir, cela dit. Hein, la classe moyenne est au pouvoir.
Non, elle n'est pas au pouvoir. Ici, c'est les riches qui ont le pouvoir. Ici, c'est les riches qui sont au pouvoir dans cette ville. Ne me racontez pas d'histoire. Alors peut-être qu'ils mettent une chemise usée quand ils viennent à Marseille, mais le reste du temps, c'est pas ça qu'ils portent.
Certains pourraient vous le dire. Le maire a même écrit un livre là-dessus. Il est d'extraction modeste. Ses parents étaient ouvriers.
Oui, bien sûr. Mais je connais aussi le milliardaire qui a des parents qui étaient pauvres et tout. Je connais toutes sortes de légendes. Mais bon, les marionnettes du système sont toujours des marionnettes et rien d'autre. Je veux pas traiter Monsieur Godin de marionnette, mais ça va, le coup de mes parents faisait ceci et cela, et toi tu fais quoi? C'est tout ce qui compte. Hein. Quelle est ta place dans la répartition de la richesse? Quel rôle tu joues dans la vie? Bon, revenons sur Marseille. Donc, voyez cette caractéristique. Donc, à partir de là, la représentation politique est brisée à Marseille. C'est pas le cas à Lille, c'est pas le cas à Toulouse. Monsieur Godin s'en va, la droite a plus de chef. Le Parti Socialiste est en ruine. Et tout ça doit se réorganiser. Alors pourquoi ça ne se réorganiserait pas sur une nouvelle perspective politique? Et cette perspective politique que je propose avec la France insoumise, ça marche et c'est moi qui viens le faire et qui le dis. Et pourquoi je viens le faire? Parce que Marseille, dans mon analyse, peut-être que je me trompe, dans le volcan français, Marseille c'est le cratère. Parce que c'est un endroit qui cherche sa formule d'expression politique. Mais que font tous les hommes politiques du coin? Ils rabattent Marseille dans Marseille. Alors, et patati et patala, les petites combines, les petits machins, les histoires, et Marseille ne parle jamais à la France. Bon, donc ce que je viens faire ici, c'est être député à l'Assemblée nationale de ce peuple. Alors, et pour terminer, je pense bien sûr, que si les Marseillais me donnent ce rôle politique, je vais le jouer à fond, hein, les amis. Alors, ceux qui me reprochaient d'être là de passage, ils vont se manger les mains, de voir que je suis pas de passage, mais que j'ai bel et bien l'intention ici d'organiser quelque chose dont ils ont pas idée à l'heure à laquelle on parle. Pourquoi? Parce que Marseille a une autre caractéristique, c'est qu'elle a un mouvement social extrêmement puissant, extrêmement organisé, et des formes d'auto-organisation populaire qui n'existent que dans cette ville. Donc tous les éléments sont réunis pour que Marseille soit le cratère de la révolution citoyenne dans notre pays. Ça, c'est mon raisonnement. Après, c'est la vie qui va me dire, Mélenchon, tu te trompes, ou bien, tiens, il avait bien vu. Voilà.
Alors, il y a toujours cette idée que quand même le député, même s'il vote les lois, il est là pour représenter le territoire dans lequel il a été élu, et ce reproche, ou cette crainte, hein, parfois, mais pas forcément un reproche, de vous voir finalement être là pour porter une parole, une ambition nationale, mais pas pour faire ce travail justement de mise en valeur de ce territoire et des gens qui y vivent.
Tout ça, c'est une salade.
On dit aussi que le député, c'est la relation de ceux qui n'ont pas de relation.
C'est la vérité. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. La représentation, la vision de la politique a été complètement pervertie par des habitudes catastrophiques de clientélisme. Le rôle d'un député, c'est de s'occuper de faire la loi. Les problèmes sur lesquels les gens butent sont des problèmes qui ont à voir avec la loi. Vous n'avez pas besoin d'aller pleurer dans la permanence d'un député pour placer votre gosse à l'école publique, s'il y a assez de place à l'école publique et s'il y a assez d'instituteurs. Donc on prend les choses à l'envers. Surtout que ceux qui viennent voir le député pour faire l'assistante sociale, c'est ceux qui ont déjà fait le tour de toutes les structures et tout le monde les a envoyés balader. Donc ils viennent vous voir, ils sont à bout de ressources. Et ils comptent sur quoi? Sur le fait que vous allez court-circuiter tous les circuits parce que vous êtes un homme puissant. Mais qu'est-ce que c'est que cette société qui vit comme ça? C'est pas possible. Donc le rôle d'un député est de faire la loi. Moi, je viens pas être candidat aux élections municipales.
Ça trouve un écho, ça, auprès de la population, dans cette circonscription où il y a des quartiers très paupérisés quand même.
Mais bien sûr, ce qui est inadmissible, c'est qu'on fasse croire aux gens des choses qui ne sont pas. que le député va régler le problème du balayage des rues, que le député va régler le problème du nombre d'instituteurs dans l'école, parce que c'est pas vrai, c'est une histoire qu'il leur raconte, pour dire, regardez, le député, il doit s'occuper de faire la loi, il doit s'occuper de promouvoir les expériences qui sont les plus intéressantes, et il y en a ici quelques-unes, hein, y compris des expériences qui ont une signification nationale. Par exemple, le projet Jupiter, ça a un sens pour tout le pays. Si le prototype fonctionne, faut en mettre partout, parce que nous allons pouvoir nous passer d'importer du gaz, si nous sommes capables, par méthanation, d'en produire. Si le projet Jupiter fonctionne, ça, oui, c'est le boulot d'un député national. Mais le reste, c'est des histoires. C'est des gens qui font ça pour essayer de faire croire que eux, ils connaissent mieux que moi. Mais enfin...
Jean-Luc Mélenchon, oui. Un député sabote la loi. Nous sommes dans une ville un petit peu particulière où la loi sert de base de négociation. Comment vous allez arriver à faire comprendre ça?
Bon, on va voir comment... Vous savez, il y a aussi une manière d'être, hein. Moi, je n'appartiens à aucun clan et c'est pas la peine de venir essayer de combiner avec moi. Bon, voilà. Donc, je pense... Moi, je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Je vais vous dire une chose. Le système clientéliste, il est mort. Parce que pour qu'il fonctionne, il ne faut pas qu'il ait la moitié de la ville sur les bras. Or, c'est ce qui se passe. Les gens ont été tellement... La société était tellement disloquée que même le vieux système ne peut plus faire face. Et tant mieux, bon débarras. Les gens n'ont par-dessus la tête de devoir aller... réclamer le béret à la main auprès de monsieur machin ou de madame truc, ce qui normalement revient à n'importe quel citoyen. Et je pense que quand des gens comme moi arrivent, ça doit rien à mon talent ou à ma personne, c'est que les gens se disent ouf, en voilà un qui est pas du marigot, il est pas dans leur combine. Et je pense que c'est ce qui explique que beaucoup de gens viennent vers moi en me disant on a confiance en vous, on compte sur vous. Pourquoi? C'est des gens simples, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un cerveau, parce qu'ils ont un cœur, ils m'ont écouté parler, ils savent ce que je raconte, ils connaissent l'homme auquel ils ont affaire et ça leur plaît. Bon, je vous dis pas que ça va suffire à me faire élire, hein, mais je sais qu'il y a un écho pour cette manière d'être. C'est pas vrai qu'on est condamné à être le patron d'une clientèle.
En même temps, l'homme du dégagisme, comme vous vous présentez, arrive à Marseille et va directement voir Jean-Claude Gaudin et Lisette Narducci, la maire de secteur qui est très controversée.
Oui, bien sûr, mais attendez, faites pas des caricatures. Je suis pas, c'est pas parce que j'ai théorisé le dégagisme que j'ai pas inventé, c'est les Tunisiens qui ont inventé ça, hein, et le slogan. Que tout d'un coup, qu'est-ce que je fais? Alors je vais me mettre tout nu dans un tonneau et puis je vais parler à personne? Non. Bon, je suis pas le philosophe Diogène, je suis un homme politique. Donc j'arrive à Marseille, vous m'avez assez dit que j'arrivais en parachute, ben vous voyez, je suis poli. Je vais taper à la porte du maire pour dire bonjour monsieur le maire, je me présente, je le connais, hein, du temps où on était au Sénat. Ben c'est une marque de respect pour une ville, enfin c'est quand même vous qui l'avez élu, c'est pas moi. Bon, quand je vais voir la maire madame Nantes, je vais la voir parce qu'elle est le maire du coin.
Alors, elle est spéciale, aussi. Elle est et droite et gauche elle aussi, hein, les
Oui, mais vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui les élisez.
Et très proche de Jean-Noël Guérini.
Oui, non mais attendez, mais alors attendez, bon, faites-moi la liste des gens que j'ai le droit d'aller voir. Et quand je vois quelqu'un dans la rue, avant de lui toucher la main, je lui dis, dis, tu connais pas Gaudin, hein, tu lui as pas parlé, et toi, tu connais pas Narducci, qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je suis ni juge ni policier, c'est vous qui les avez élus, ces gens-là, alors relâchez-moi. Donc, si vous voulez les dégager, vous les dégagerez. Mais en attendant, ils sont là, et ils sont là, donc on respecte leur fonction. Et je vais les voir pour leur toucher la main. Quant à monsieur Gaudin... Je sais, il m'a dit qu'il s'en allait. Eh bien, figurez-vous que c'est un personnage. Et que pour un type comme moi, c'est intéressant de voir ce personnage dans sa mairie. Mais pour le reste, Gaudin et moi, on n'a pas parlé de politique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se raconte? Il est de droite et moi, je suis un homme de gauche. J'ai passé ma vie à ça. On ne va pas commencer tout d'un coup à discuter de la propriété collective des moyens de production parce que j'arrive à Marseille.
Justement, je reviens quand même là-dessus, Jean-Luc Mélenchon.
Il faut mettre de l'humour là-dedans,
oui,
sinon on s'en sort pas.
Mais des gens qui sont favorables, qui sont contents de vous voir arriver parce que justement, ils sont lassés de ce personnel politique assez particulier marseillais et vous entendez dire je suis ni juge ni policier, ils se disent tiens, quelle est donc, pourquoi cette prudence là alors que ils attendraient peut-être que avec eux vous donniez un petit coup de balai sur ce nombre de
balai, c'est pas de la tchatche, c'est des choses sérieuses, faut le faire, faut pas en parler, ça sert à rien. Vous me voyez arriver à Marseille, je suis pas encore élu ni rien, je fais rien, j'arrive et je commence à dire celui-là il est ceci, celui-là il est cela, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi qui viens remuer la bouillasse, hein, je vais la remuer pour que ça sente bien fort partout et après quoi? La seule chose qu'il y a à faire d'abord, c'est d'élire les députés de la France insoumise. Et après, chaque jour suffit sa peine. Les gens qui ont des problèmes avec la justice finiront par aller dans un tribunal parce que c'est prévu. Et c'est le tribunal qui tranche. C'est pas moi. C'est pas moi qui vais vous dire celui-ci, si, celle-là, ça, etc. Je ne veux pas. Ce que je veux, c'est instaurer un nouveau système. Donc, on tournera la page avec les formes, avec l'élégance que des fois il faut y mettre.
Jean-Luc Mélenchon, Marseille, extrême pauvreté, parfois extrême violence dans certains quartiers.
Extrême richesse, extrême égoïsme, extrême avarice.
Ouais. Qu'est-ce qu'a besoin ? Qu'est-ce qu'il faut pour cette ville le plus rapidement ?
Du boulot.
Du boulot ?
Du boulot, du boulot, du boulot. Du travail pour que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Ils ne demandent pas autre chose. Et les gens, ils ne demandent pas des mille et des cents. Hein. Ils vous demandent du travail, deux IO, des instituteurs pour les enfants, tertiaux, des hôpitaux qui fonctionnent. Voilà, déjà donnez-nous ça et avec ça, on va se débrouiller pour faire notre vie. Alors, c'est très difficile parce que les gens croient que s'il n'y a pas de boulot, si l'hôpital va fermer et s'il n'y a pas d'école, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond à Marseille. Non, c'est quelque chose qui tourne pas rond en France, dans la répartition de la richesse. Le pays est plus riche qu'il a jamais été de toute son histoire. Donc du pognon, il y en a partout. On est record d'Europe, des millionnaires. Bon, et puis on commence à bientôt, on va prendre le record d'Europe aux Allemands du nombre de pauvres dans un pays riche, vous voyez. Donc il faut arriver à faire comprendre aux gens que c'est un problème politique et que ce problème politique, il est national. S'ils s'en vont voter pour Madame Vercini, ce qui est bien leur droit, après tout, bon, je parle de la candidate en marche
dans votre circonscription.
Et ben, c'est clair, après, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent qu'ils n'ont plus d'horaire de travail, que le contrat à durée indéterminée, ça n'existe plus et le reste. Bon, donc il faut aider les gens à comprendre politiquement ce qui se passe. Ils ont le droit de choisir, hein. Attention, hein. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a la vérité d'un côté et l'erreur de l'autre. Il y a des choix différentes sociétés. Mais il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les embusquer, les enfumer pour que les gens ne les voient plus et ne soient plus en état de choisir.
Un sondage vous a donné très largement en tête dans cette circonscription, premier sondage, mais aussi Mme Vercini, inconnue, hein, aucune expérience politique, qui vient de l'entreprise.
L'entreprise, on va dire comme ça.
Start-up.
Start-up.
Oui, c'est ça.
À l'image de ce que va devenir la France selon notre président.
Voilà, absolument.
Comment ça se fait qu'une
circonscription... Elle est également quelque chose qui est moins start-up, c'est gestionnaire d'une société de fonds, de gestion de fonds. Hein. Bon, ça, on ne le dit pas. Elle est
vous dites, mon adversaire, c'est elle, clairement, pour vous, c'est dans cette...
Clairement.
Il y a un candidat.
Surtout un député sortant, il ne faut pas l'oublier.
Je n'oublie personne, j'aime tout le monde et le reste. Mais on parle de politique, là, on ne parle pas de nos relations personnelles. Je viens pour créer une majorité en face du président macroniste, qui je veux battre. Les candidats de M. Macron, ça me paraît quand même assez simple à comprendre. Donc Mme Vercini, que je ne connais pas, qui doit être sûrement une personne tout à fait respectable et aimable, pour les repas de communion et le reste, ce n'est pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est ce qu'elle représente politiquement. Comme je veux battre M. Macron, ben je veux battre Madame Vercini, à Marseille. Alors elle, on lui dit pas qu'elle est parachutée, pourtant elle arrive d'Aix. Hein, à elle, on lui dit pas, vous allez peut-être pas voir les gens parce que vous êtes occupé par vos trois sociétés que vous dirigez. Non, non, à elle, on lui dit pas tout ça.
Alors elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate, elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate et qu'elle a été candidate parce que vous arriviez.
Vous le croyez, une chose pareille?
C'est vous qui l'avez motivée.
Mais tu parles. Elle s'est dit, je vais aller là-bas pour rien que pour embêter Madame Narducci, hein, et c'est tout, voilà, parce qu'ils peuvent pas se blairer entre eux, ils se battent, et à la première occasion, elle s'est dit, tiens, j'ai une bonne occasion de venir à Marseille pour essayer de faire chef de la droite et être candidate à la mairie de Marseille la prochaine fois. C'est ça qu'elle vient faire, madame. Elle vient pas se battre avec moi, elle vient se battre avec Godin et avec les autres.
Vous pensez qu'elle a des ambitions comme ça, locales, et qu'elle
veut
être à la tête de la droite
locale ?
Mais
enfin, si, imaginez-vous, elle arrive, et supposez qu'elle me batte. Mais que vont dire tous les gens de droite? Ils vont dire, ah ben ça y est, alléluia, on a trouvé notre chef. Elle a même battu Mélenchon, vous vous rendez compte? Elle aura mon scalp dans son bureau. Alors, quelqu'un qui a mon scalp dans son bureau, aussitôt, ça devient le maire de Marseille. Elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour taper Mélenchon.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon. C'est des histoires. En message aux militants insoumis, vous avez dit, c'est la lutte de Marseille qui sera menée, pas celle d'une circonscription. Aussitôt, tout le monde a traduit.
Ouais.
Cela augure peut-être une potentielle candidature à la mairie en 2020.
Non, je suis formel. Je ne suis pas candidat à la mairie en 2020. Et j'espère que la jeune génération va trouver le moyen de trouver parmi elles le leader.
Les insoumis marseillais ont envie de ça. On a entendu le 1er mai des Mélenchon à la mairie, etc. Les gens ont envie.
On va voir. Non,
on est passé rapidement à
Non, on va faire comme je dis moi. Parce que c'est moi le vieux et qui sait comment il faut faire. Voilà, la jeune génération, si elle n'est pas capable de se dégager un leader ou une leaduse, hein, eh ben, elle a qu'à aller jouer au bac à sable. Mais si elle veut être sérieuse politiquement, alors elle doit s'appuyer sur le vieux, sur ma participation à la lutte politique à Marseille et constituer une équipe capable de proposer à cette ville autre chose. Voilà ce qu'ils doivent faire. La droite, ils sont en train d'amener Madame Vercini. d'accord, pour qu'elle soit maire de Marseille. C'est pour ça qu'il l'amène dans ma circonscription. Eh ben, eux, au milieu de tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, et d'autres encore qui vont venir. Parce que moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à construire à Marseille un véritable front populaire de Marseille, avec les mouvements sociaux, les militants politiques, mais aussi les cultureux, les intellectuels, qu'on fasse quelque chose qui soit une levée en masse des Marseillais pour changer la vie en France. C'est pour ça que je dis on va faire une équipe de Marseille pour parler au pays.
Hein. Un ça dernier mot, l'émission se termine, un dernier mot. Votre engagement à Marseille, votre durable, ponctuel, durable.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie, monsieur, on ne sait pas. Peut-être que tout à l'heure, une voiture m'écrase et c'est fini. Bon, comment voulez-vous que je ne vais pas vous raconter ma vie. Vous savez quel est mon âge. Vous vous figurez que je viens faire ici 3 tours de piste avant de partir où j'en ai marre, moi, de circuler. Bon.
Maintenant, en attendant, je crois que vous avez des problèmes immobiliers, vous cherchez une maison à acheter,
oui.
C'est ça?
Une maison, faut pas exagérer. Mais j'aimerais bien avoir, voyez, un appartement haut de plafond, oui. À un prix extrêmement modeste.
S'il pas vous plaît. Sur l'annonce, oui.
Et puis, je veux voir la mer tout en étant proche à pied du premier kiosque où je peux acheter la presse ou de la gare Saint-Charles.
À partir du bureau du maire de Marseille, on voit très bien la mer.
Mais c'est pas un logement, le bureau du maire de Marseille.
Michel Guiraud pour le mot de la fin.
Oui, juste un mot, le Ravi vient d'être attaqué en diffamation pour une enquête sur le Var. Ce sont 2 députés républicains qui nous mettent en procès. On invite les auditeurs à nous soutenir et à s'abonner.
Oui, alors il faut vous abonner et soutenir parce que la ruse des puissants et des importants, c'est les procès en diffamation. Moi, c'est la Société Générale qui me fait un procès et ils espéraient me foutre la trouille, c'est raté.
Jean-Luc Mélenchon, je vous remercie. Je vous dis au mois prochain. Bye.
Merci, au revoir. Merci de m'avoir reçu.
Le Ravi, Radio Grenouille.